Merci Sharon. Donc je passe la parole évidemment aux personnes présentes dans la salle qui souhaitent poser des questions en leur demandant simplement de se présenter, de dire qui intervient simplement au début de son intervention et de poser des questions aussi concises que possible.
Je vais essayer, Abdoulaye Diaye de la Radio Africa numéro 1. J'ai des questions. La première, c'est comment vous expliquez qu'après avoir reconnu qu'il y avait une liste de disparus dans l'affaire de Butch, les Nations Unies n'est pas autorisé le HCR à témoigner, puisque ce témoignage aurait pu permettre d'éclairer quand même certaines choses. La deuxième question, est-ce que à partir du moment où il y a un jugement à Brazzaville, la procédure en France va pouvoir continuer? Merci.
Alors, sur le premier point, je laisserai peut-être compléter mes voisins sur le HCR qui, effectivement, donc n'a pas témoigné au procès de Brazzaville. Bon, difficile de connaître l'explication réelle. Moi, j'en vois une qui me paraît couler de source, qui est un peu similaire à ce que nous avons développé depuis trois quarts d'heure devant vous, à savoir une méfiance absolue vis-à-vis de ce procès de Brazzaville, et donc une absence totale de confiance dans la justice congolaise, donc qui amène les autorités du HCR à refuser également de participer au procès. Bon, il y a un deuxième point que j'évoquerai quand même, ça a été dit aussi, c'est que le HCR dans cette affaire est dans une position un peu délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, un peu ambiguë, et qu'on peut s'interroger sur la façon dont le rôle de protection qui doit être celui du HCR a été rempli. Mais ça reste plus au stade de l'interrogation pour l'instant qu'au stade de précision. Alors, sur le deuxième point, puis encore une fois, si l'un de mes voisins souhaite compléter sur le premier point qui est important, je laisserai la parole. Sur le deuxième point, est-ce que la procédure va pouvoir se poursuivre en France? Alors, sur ce point, si vous voulez, encore une fois, au niveau de la procédure française, nous attendons l'arrêt de la Cour de cassation qui doit être rendu normalement à peu près fin 2005, peut-être début 2006. Si la Cour de cassation fait droit au pourvoi que nous avons formé contre l'arrêt de la Chambre de l'instruction, l'instruction va reprendre en France. Bon. Si la Cour de cassation rejette, c'est en France tout au moins terminé. Nous irons sans doute devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais en France, ça serait pour l'instant terminé. Bien. Si la procédure reprend en France, il est évident que nous allons avoir... Vous savez, depuis le début, on se heurte à de multiples obstacles, et comme vous pouvez le constater, ça ne nous décourage pas, malgré les difficultés et malgré parfois les insuccès qu'il faut reconnaître. Mais nous pensons qu'à terme, nous arriverons à nos fins. Si vous voulez, on nous opposera maintenant une difficulté supplémentaire qui est ce qu'on appelle, je m'excuse du jargon juridique, la règle non bis in idem. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot un peu abscon? Ça veut dire qu'on ne peut pas normalement juger deux fois les mêmes personnes pour les mêmes faits. Donc évidemment, les autorités de Brazzaville vont nous dire, en France, vous ne pouvez plus poursuivre pour les événements de mai 99 à Brazzaville les personnes qui sont passées en jugement et qui ont donné lieu à un procès à Brazzaville. C'est un argument qu'on va nous opposer. Ce à quoi nous opposerons, si nous allons dans cette dialectique, ce à quoi nous opposerons, que encore faut-il que le procès donc de Brazzaville, qu'on nous mettra sous le nez, soit un procès qui ait répondu aux normes minimum du procès équitable, impartial, etc. Et vous vous doutez bien que nous continuerons de prétendre et de démontrer le contraire. Oui.
Voilà. L'ancien camarade de Devoir africain, vous savez bien que la justice française avec Chirac ne peut pas permettre que cela continue. Pourquoi vous ne saisissez pas directement et rapidement l'Union européenne? Ça, c'est la première question. La deuxième question, puisqu'il s'agit d'une affaire africaine, est-ce que vous avez saisi l'Union africaine pour dire que cette situation est grave et que finalement ça ne permettra ni au Congo-Brazzaville ni à des pays qui ont l'habitude de pratiquer ce genre de procès de progresser dans le continent? Voici mes deux questions.
Alors, sur la première question relative à l'Union européenne, il faut savoir qu'il faut que nous épuisions les voies de recours internes à la France avant d'aller à l'échelon européen. C'est-à-dire, ça suppose, si vous voulez, qu'on aille jusqu'en cassation, ce qui est le cas. Et si la Cour de cassation rejette, ça veut dire qu'en France, ça y est, on a épuisé les voies de recours. Et à ce moment-là, effectivement, on peut s'adresser à l'échelle européenne, et en particulier à la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je pense, trouverait beaucoup de choses à dire sur la façon dont ça s'est déroulé dans les derniers mois aussi au niveau de la procédure française. Sur l'Union interafricaine, bon, là, c'est un peu plus, je dirais, une action de caractère. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire, sauf à ce que peut-être vous précisiez sur le plan judiciaire. C'est plus politique, je pense, que judiciaire. Là, je laisse peut-être mes voisins répondre.
C'est beaucoup plus politique dans la mesure où les ONG congolaises ont posé ce problème à ce qu'on appelle l'Organisation africaine des droits de l'homme, mais vous devez vous rappeler cette phrase qu'avait sortie il y a quelques années Pierre Boutros-Ghali, qui disait que les guerres congolaises étaient des guerres orphelines. Ça veut dire tout simplement qu'au niveau des instances africaines, il y a un blackout total au niveau de l'UA, donc la fameuse unité africaine, qui en fait n'est qu'un syndicat de putschistes arrivés au pouvoir, qui ne voudront jamais que ce procès ou que cette affaire revienne sur la place publique, et surtout qu'on puisse enquêter avec les règles élémentaires du droit.
Lors de Villepian, France Culture, pour revenir sur les questions juridiques et judiciaires, on va vous opposer la règle, on ne peut pas juger deux fois les mêmes personnes pour les mêmes choses. Comment vous comptez argumenter sur ce que vous disiez? Ce procès n'a pas été équitable. Quelle est l'instance qui va pouvoir trancher ça?
On va se retrouver, si vous voulez. C'est un des obstacles, si vous voulez. C'est un moyen de procédure. Hein, c'est-à-dire qu'on vient vous dire, bon, dans le cadre de la... Bon, si la Cour de cassation casse l'arrêt de la Chambre de l'instruction, on va se retrouver en instruction. Et donc, l'instruction va se poursuivre. Dans le cadre de cette instruction, les avocats adverses, je dirais, c'est-à-dire les avocats de la défense, les avocats de Dabira, les avocats de Ndengue, qui sont constitués en France, vont nous opposer cet argument. Donc, le juge d'instruction va dire « je l'accepte ou je le refuse ». Nous irons devant la Chambre de l'instruction. C'est tout un débat, si vous voulez, qui sera tranché par les juridictions saisies. D'abord, le juge d'instruction, qui se prononcera pour dire « je poursuis ou je ne poursuis pas » en fonction de ça. Le parquet, qui prendra position, qui dira, moi j'estime qu'effectivement, puisque ça a été jugé à Brazzaville, ça n'a plus à être poursuivi en France, et on remontera sur un nouvel obstacle juridique qui sera tranché éventuellement, peut-être même, on ne sait jamais, par la Cour de cassation. Bon, mais il n'y a pas d'autre, voie. Alors, on avait déjà regardé, je ne vous cache pas que c'est pas parce qu'on sait depuis à peu près 2 ans maintenant que le pouvoir de Brazzaville va chercher à trouver ce subterfuge pour contrer la procédure française. Donc on a déjà fait des recherches, des juristes qui, notamment à la FIDH, ont travaillé sur le sujet, on a des notes. Il n'y a pas tellement de précédents, il faut le dire, hein, sur quelque chose de similaire. Mais ce qui est certain, c'est que la jurisprudence permet de dire que cette règle, donc on ne peut pas juger les mêmes personnes pour les mêmes faits 2 fois, tombe lorsque l'on apporte la démonstration que le procès tenu en l'espèce à l'étranger est un procès que je qualifierais, pour simplifier, vous me pardonnerez, un procès bidon.
Il y a un argument qu'on peut rajouter à ça, c'est la constitution congolaise, tout simplement. Quand on reprend l'article 141, il dit ceci: les membres de la Cour suprême, les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Or, en l'espèce, à Brazzaville, ça ne s'est pas fait selon la constitution de la République du Congo, dans celle de M.
Est-ce qu'il y a un appel ou une cassation possible au Congo pour, par exemple, les parties civiles?
Nous attendons qu'ils terminent. Dès qu'ils auront terminé, après concertation avec les différentes parties, nous verrons quelle attitude il faudra adopter. En tout cas, nous nous fierons à ce que nos avocats, nos juges, nos conseillers juridiques nous proposeront. Déjà, madame, quelles que soient les circonstances, que ce soit au plan juridique ou au plan politique, l'affaire de disparu de Beach continuera dans nos actions et dans notre esprit. Vous savez, nous nous croyons à la dialectique, non seulement du fait que c'est une chance irréversible, mais nous croyons au mouvement politique aussi. Monsieur Sassou est au pouvoir aujourd'hui, tel que l'était Mobutu, Taylor et tous les autres, Pinochet. Et nous avons conscience de notre faiblesse par rapport au pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui. Mais nous avons confiance en l'avenir. Et je voudrais revenir, maître, avec votre permission, sur l'implication du HCR. Vous savez, nous avons tout exprès l'implication du HCR. Parce que nous ne voulions pas avoir 2 ennemis au même moment. Et puis ensuite, le HCR, nous voulions l'avoir comme partenaire parce que nous croyons à l'indépendance de ce milieu. Malheureusement, à un stade donné de nos recherches, nous nous sommes aperçus que des implications assez larges manifestaient des accointances entre le pouvoir français, les milieux de l'ONU au niveau le plus élevé, et je le dis en toute responsabilité, et le pouvoir français. Au point où M. Kofi Annan s'est permis, tout secrétaire général qu'il est, de dire l'affaire du le Congo, c'est l'affaire de la France. C'est comme si on avait donné mandat à la France d'assurer le protectorat du Congo-Brazzaville. Et c'est sont ces bases qui, malheureusement, nous conduisent à ces procédures. Et pour ceux qui nous ont écoutés il y a un mois, nous disions, avant le démarrage de cette procédure, que le procès de Brazzaville avait pour but, premièrement, d'absoudre les criminels, c'est-à-dire à M. Sassou de s'absoudre, d'absoudre ses différents complices. Deuxièmement, de gêner, de bloquer les procédures, la procédure française, principalement celle de Meaux. Et troisièmement, nous disions, présenter des lampistes dont ils auront reconnu les services dans cette période, les condamner pour que le 15 août 2005, ils soient absous. Parce que M. Sassou, au nom d'une espèce de volonté d'unité nationale, voudrait comme éliminer tous les contentieux politiques qui se posent au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi ils ont précipité le procès. Et voilà pourquoi ils ont demandé à ce que ça soit vite fait. C'est pour cela que les parents n'ont pas été entendus, parce que rien que l'audition des parents pouvait prendre un mois. Donc M. Sassou a un programme édicté par la France-Afrique, édicté par des gens. Est-ce que vous savez que le peuple congolais a appris, non pas de M. Sassou, non pas du ministre de la Justice, non pas du ministre de l'Information, tout sonore qu'il soit, mais de M. Patrick Gobert, malheureusement président de la LICRA, que le procès sur l'affaire des disparus du Bitche devait avoir lieu fin avril. Et ça, il le disait devant le perron du palais de M. Sassou Ampila. Vous comprenez donc la volonté de certaines personnalités françaises de libérer M. Sassou de cette épine qui, pour eux, met en danger non seulement le pouvoir de M. Sassou, mais aussi les intérêts d'un groupement de mafieux que l'on appelle officiellement en France patron voyou, qui ont intérêt à ce que M. Sassou soit toujours au pouvoir. Donc l'affaire des disparus du Bitche est sortie du contexte judiciaire pour intégrer le contexte politico-économique mafieux. Voilà pourquoi, Maître Baudin, vous aurez beaucoup de difficultés pour nous aider. Et vous aussi, voilà pourquoi vous aurez beaucoup de difficultés pour toujours nous défendre, malgré votre bonne volonté. Voilà les conclusions.
Je voudrais juste, pour répondre à la question, terminer juste la réponse à la question. Simplement, je ne sais pas en droit congolais, évidemment, quelle est la réponse exacte par rapport à un éventuel recours contre... En France, simplement, les parties civiles en assises n'ont pas la possibilité d'exercer le recours. Seul le parquet ou les accusés peuvent le faire.
Rapidement, pour continuer ce que j'ai dit demain, je pense qu'on ne peut même pas attendre si on pouvait imaginer que c'est le parquet là-bas qui peut demander la cassation d'une décision. On ne peut même pas attendre de ce parquet qu'il puisse aller dans ce sens-là, puisque tout simplement, il faut avoir à l'esprit que le 2 août, donc pendant le procès, Maître Malonga avait demandé le dessaisissement de cette cour, puisqu'elle l'a considérée comme anticonstitutionnelle. La Cour suprême, qui théoriquement dit le droit, donc n'interprète pas la Constitution, mais dit le droit, a interprété l'article 141 en disant que M. Sassou avait le droit de nommer des magistrats, alors qu'il n'existe pas de conseil supérieur de la magistrature. Donc on ne peut pas y croire.
Il y avait une autre question. Oui, pardon, monsieur.
Arsène Dikoué, président de la Ligue de la démocratie au Congo. J'ai deux questions à vous poser.
Quel Congo, s'il vous
plaît ? Congo-Brazzaville. La première, c'est une question qui est beaucoup revenue depuis que l'affaire des disparus du Bitche a commencé. C'est sur la liste des 353 disparus. Et elle revient tout le temps, parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai encore suivi sur une chaîne de télévision un journaliste qui disait que cette liste-là n'existe pas. Bon, est-ce que vous pouvez nous dire là, si oui, cette liste, elle existe, si elle n'existe pas, comment est-ce que le nombre de 353 disparus est sorti, le nombre, puisque ce problème-là semble profiter au pouvoir de Brazzaville pour le ressortir tout le temps. Et ma deuxième question, elle s'adresse à M. Twanga. Dans votre développement, vous nous avez fait état de votre rencontre avec Adwoa, que vous avez vu Tsourou. Et ma question est la suivante. Pourquoi, pour faire éclater la vérité, vous n'êtes pas parti à Brazzaville, même si nous savons que le procès de Brazzaville était pipé d'avance? Pourquoi, puisque ce procès était radio-télévisé, vous n'êtes pas allé à Brazzaville pour contredire ce que les Adwoa, les Ntourou ont raconté, puisque vous avez des éléments précis, des dates précises.
Alors, excusez-moi, je vais laisser M. Trondegard répondre aux deux questions d'ailleurs. Simplement, on m'avise que nous devons terminer à 12h30, donc nous avons quelques minutes seulement. Donc je vais demander à M. Trondegard de répondre aussi rapidement que possible.
Bien, mon frère, je n'appartiens pas à cette catégorie d'individus qui considèrent le Congo comme un milieu sectoriel. Tous les discours que je prononce, j'interviens de telle sorte que le sang de nos enfants ne serve pas de barrière ou d'occasion pour dire que l'affaire des disparus du Bitche est un contentieux entre les populations du Nord ou les populations du Sud. Ça, c'est une issue qui vous repose. Vous avez suivi le colonel OCT Valence, il me semble. Le colonel OCT Valence est l'ancien chef de la gendarmerie. Il a dit, et je suis témoin parce que je me trouvais là, mon fils étant gendarme, j'étais là. Ça se passe le 8, le jour où on avait arrêté aussi mon fils. Donc je suis le 9 matin au siège de la gendarmerie. Il y a 125 personnes qui sont amenées. Et devant moi se déroule un débat. Des officiers voulaient récupérer ce matin-là les 125 personnes pour les amener à l'académie militaire, les exécuter et présenter leur corps étant comme ceux des ninjas qui étaient venus attaquer l'académie. J'ai contribué par rapport à mon grade, les gens ont compris, et j'ai eu OCT au téléphone pour dire « Tu n'as pas le droit d'accepter que les gars de la garde présidentielle sortent avec ces individus parce qu'ils sont déjà au sein de ton corps. » Bon, je parle du 9 mai 1999. Ils sont 125. Imaginez donc combien ils ont pu arrêter depuis le moment où ils avaient démarré l'opération. Pourquoi des parents ne se sont présentés qu'au moment où ils ont compris qu'il était possible de parler, alors que lorsque le procès a démarré, ils étaient 75, et quand on est arrivé à la fin, ils étaient 200 familles. Mais parce que c'est difficile, il faut avoir un courage fou pour mener des actions telles que celles que nous avons menées. Vous pensez qu'un citoyen ordinaire peut dénoncer le visage à découvert un dengue, un adwa? Mais quand on vous parle du Congo-Brazzaville, ça dit que vous avez l'impression que... Mais les adwa, c'est des chefs. Ils n'ont pas besoin de prendre le manger. Ils disent, tuez-moi celui-là et tu es mort. Vous voyez ces parents-là en train de venir s'exposer là pour un procès dont ils connaissent d'avance l'issue. Le président avait dit, j'organiserai un procès pour dire qu'il n'y a jamais eu d'arrestation, il n'y a jamais eu de tuerie, que ces gens sont morts aux Zaïre où se trouverait leur tombe. Ça, c'est le verdict du président que les gens devaient expliquer. Est-ce que vous savez que Ndengue, Adwa, au moment où nous parlons, même avant le verdict, ils sont dans leur bureau, ils signent leurs documents, alors qu'on nous a fait comprendre qu'ils avaient été suspendus? Non, mon frère, vous et moi, nous sommes ici en France. Essayons de nous entendre toujours pour voir comment des choses comme ça ne peuvent pas se produire. Ne nous installons pas dans des espèces de fédérations ou des groupements démocratiques pour défendre des criminels. Ce sont des criminels, mon frère. Moi, maître le sait, et je vous ai toujours dit que j'ai travaillé avec Sassou. Peut-être que nous ne sommes pas des amis, mais nous sommes des camarades. Et si aujourd'hui je suis vivant, c'est parce que justement j'ai travaillé avec Sassou. Ils m'ont laissé opérer, ils m'ont laissé chercher. Parce que personne ne pouvait croire qu'une chose comme ça pouvait arriver au colonel Touanga. J'ai été membre du comité central. J'ai été l'ambassadeur nommé par Sassou. Vous voyez, ce qui revient à dire que quelque part, je reprends du mandat de Sassou 1. Mais pourtant, cela m'est arrivé. Et c'est pour cela justement que je parle de Sassou en connaissance de cause. Vous ne le connaissez pas. Pourquoi? Mais le chiffre de 353, mon frère, est minoré. Prenez seulement l'exemple de cet événement. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Pourquoi je ne suis pas parti au Congo? Ah, mon frère, c'est vrai que peut-être que je suis courageux. Peut-être, mais la mort, moi, je la redoute. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Maya, des forces vous prennent. Il n'y a aucune contre-force pour vous sortir de là. Il y a certain monsieur Patrick Gobert qui s'est permis de me dire, colonel Touanga, si vous voulez faire quelque chose pour la mémoire de votre fils, allez au Congo. Et il n'y a que là-bas. Je lui ai dit, mais comment vous allez assurer la garantie de la sécurité? Ah non, sur ce plan-là, monsieur, je ne peux rien vous assurer. Donc, camarade, moi, vraiment, contactez-moi à tout moment. Je suis heureux de savoir que vous êtes Congolais, que vous avez la démocratie et que dans une organisation. Je n'ai rien à vous cacher, je n'ai à vous dire que la vérité. Pour la sécurité de notre peuple, et je vous apprends que, même sur le plan du sang, je suis lié aux régions.
Juste un petit mot de M. Moutsila, puis je crois qu'on va être obligé de terminer en raison de cet impératif horaire.
Rapidement sur ce chiffre de 353, je crois que le collègue Twanga l'a dit, c'est un chiffre qui est complètement minoré. Nous, dans les enquêtes qu'on a pu faire au niveau de la Fédération, on arrive à des chiffres par jour, de par les barges qui rentraient tous les jours à Brazzaville, on arrive sur les 30 jours du mois de mai à un chiffre qui avoisine les 1500 disparus. Et je crois que ce procès a été suffisamment à satiété pour nous montrer qu'il y a une pression qui est telle que les parents ne pouvaient pas, même à Brazzaville, aller témoigner. Pour vous donner un tout petit exemple, je terminerai par là. Pendant le procès, quand quelques parents ont dit, notamment une maman a désigné Adoua comme étant celui qui avait été à l'origine la mort de son fils, le lendemain, plutôt le jour même, le soir, le courant avait été coupé, donc il y avait un délestage d'électricité sur le quartier de Bakongo, où habitent toutes les parties civiles. Alors pour ceux qui connaissent Brazzaville, du palais de justice à Bakongo, on passe par un endroit, c'est le seul passage qu'il y a, c'est un sorte de goulot d'étranglement. Il y a un camp militaire d'un côté, avec des, je dirais, qu'on appelle ça, c'est des trous, on peut passer les armes, et l'autre côté, un ravin. Et par cet endroit-là, en 98, plusieurs personnes sont fait abattre à cet endroit-là. Les Congolais l'appellent Mounouangam, c'est-à-dire la gueule du crocodile. Alors comment voulez-vous, dans un pays comme celui-là, les parents aient le courage d'aller témoigner?
J'ajouterai qu'hélas, vous le savez,
Non, ça va, ne discutez pas de ça.
Juste pour terminer sur la question des disparus, puisque c'est une question... Vous savez que c'est pas propre au Congo-Brazzaville, et qu'hélas, les discussions dans tous les pays où il y a des disparus, et c'est pas le seul pays, hélas, encore une fois, sont toujours les mêmes. On nous oppose du côté des autorités, mais rapportez la preuve que des chiffres que vous avancez... Comme si ce n'était pas aux autorités, précisément, de faire les enquêtes. Ce sont les autorités qui savent qui sont les disparus. Et elles essayent, c'est classique dans tous les pays, d'imputer en quelque sorte la charge de la preuve à ceux qui sont les victimes, ce qui est en soi une aberration. Donc ne rentrons pas, je crois, dans cette discussion. Bon, est-ce qu'il y en a eu 400? Est-ce qu'il y en a eu 350? Il y a eu des dizaines, des centaines de victimes. C'est suffisant, je crois, pour justifier un procès qui aurait dû être équitable et qui ne l'a pas été. Merci en tout cas à vous tous. Merci de votre patience.